Eh bien, madame, la toute première question pour nous mettre en train, c'est depuis combien de temps habitez-vous Orléans?
J'ai toujours habité Orléans puisque j'y suis née en 1929.
Ah oui?
Et toute ma famille est orléanaise.
Ah oui, votre père aussi est
orléanais. Mon père est orléanais, c'est-à-dire qu'il habitait en Sologne, c'est à oui. 30 km d'ici. Maman oui. est née à Orléans, si bien qu'on est vraiment des vieux orléanais.
Oui, et vous vous plaisez à Orléans?
Oui. Moi je me plais bien, vous savez.
Vous comptez y rester?
Oh, oui, on y restera, tandis que la situation de mon mari est orléanais, qui lui aussi est orléanais, de parents orléanais. Alors on est des
Ah oui, nous avons de la chance alors de rencontrer des vrais orléanais.
Vous avez des vrais orléanais?
Oui.
Vous n'avez pas rencontré beaucoup là-bas?
Non, je crois que dans la plupart des villes, c'est la même chose. Mmh. Il y a peut-être 25% de mmh. personnes qui sont orléanais mmh. ou enfin qui sont nées dans la ville. Oui, c'est intéressant. Et est-ce que vous travaillez, madame?
Non, je ne travaille pas. Mmh. Je m'occupe de mes enfants. J'ai 5 enfants et je ne travaille pas.
Mmh. Est-ce que vous travaillez avant votre mariage?
Non, je me suis mariée à 20 ans. J'ai fait mes études jusqu'à mon baccalauréat. Et...
Oui. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous faites pendant une journée typique?
Oui, bah écoutez, c'est très facile. Mmh. Le matin, je prépare les enfants pour aller en classe, mais maintenant ils sont assez grands et ils se débrouillent. Enfin, si vous voulez, je m'occupe du petit déjeuner. Je vais faire mon marché deux fois par semaine, un marché assez important dans les halles d'Orléans, là. Et autrement, faire les courses habituelles de tous les jours. Le ménage, dans la matinée, la machine à laver, enfin tous les travaux ménagers, quoi, si vous voulez. Et tous les enfants rentrent déjeuner, si bien que nous sommes à midi 7 personnes. Après déjeuner, quand tout le monde est reparti en classe, en général, de 2h à 5h, j'ai un temps libre. Alors je m'occupe de pas mal d'organisation.
Ah oui.
Alors je suis souvent assez prise après-midi par des réunions ou.
Oui, quelle sorte d'organisation?
Je fais partie d'une équipe. Du FCS, ce sont des initiales qui veulent dire Union Féminine Civique et Sociale.
Oui.
Et qui est, si vous voulez, pour permettre aux femmes de prendre leur place dans la vie civique et dans la vie sociale. Alors, par un moyen de formation, on est un peu à ce stade-là, Orléans, et pour amener les femmes à réfléchir à ces problèmes-là.
Ah oui, et qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans ce travail?
Moi, au départ, c'est un travail de formation parce que je me rendais compte que la femme a une place à prendre dans la vie civique et sociale et au fond, on n'est pas du tout préparé, ni par les études, si vous voulez, jusqu'à un niveau de baccalauréat, des études ordinaires, on n'est pas du tout préparé à prendre notre place.
Oui. Et comment est-ce que vous faites pour vous préparer alors?
Ah ben, nous avons c'est un mouvement national qui est assez structuré et... Au plan national, on a des responsables qui viennent à Orléans, mais une fois par trimestre, qui nous forment. Alors moi, je suis partie spécialement d'une équipe presse culture, vous voyez, pour voir quelle est la place de la femme, quelle place on lui donne dans la presse et quelle image la presse se font de la femme. Alors, elle vient à Orléans nous apprendre à faire des exposés, des comptes rendus, à savoir disséquer dans un exposé ce qu'est l'essentiel, etc.
Ah oui, c'est très intéressant.
C'est très intéressant. C'est très, très intéressant.
Exactement ce que nous faisons avec nos étudiants.
Ah oui?
Oui. Mmh. Étudiants en langue française. Oui. Et est-ce que des personnes comme, par exemple, Evelyne Sullerot viennent vous parler?
C'est-à-dire qu'on a lu des livres d'elle, justement, oui. pour essayer de les commenter. Non, là, ce sont des responsables qui s'occupent à Paris même, si vous voulez, du mouvement qui viennent. Et dernièrement, on a eu un congrès national. Alors nous sommes allés parce que la place était assez restreinte, on y allait deux par équipe. Moi j'y suis allée le jour, on avait une réunion sur les livres. Alors il y a Françoise Dumayet qui était devant la télévision,
ah, oui.
j'ai entendu parler,
oui.
qui est venue nous faire une table ronde. Une autre de Claude Leroux qui est du journal Elle, plutôt des femmes qui sont venues nous expliquer, Françoise Dumayet, comment elle comprenait un interview à la mm-hmm. télévision.
Est-ce que dans l'organisation, ou peut-être, enfin, votre opinion personnelle ici plutôt, qu'est-ce que vous pensez des femmes qui travaillent, des femmes mariées qui travaillent?
Écoutez, les femmes mariées qui travaillent, je pense que si ça ne nuit pas à leurs enfants, je pense que ça peut leur apporter un certain épanouissement très, très normal et très, oui. très valable. Mais s'il y a des jeunes enfants, moi ça me semble très difficile.
Ah oui, pourquoi?
Parce que je pense qu'un enfant tout jeune a besoin d'avoir sa mère quand il rentre de classe. Notez qu'il y a des professions comme professeur, par exemple, Oui. Alors là, je trouve que c'est très compatible, certainement.
Oui. Oui.
Mais enfin, une femme qui resterait, si vous voulez, toute seule chez elle, toute la journée, hein, uniquement dans son travail ménager, ça me semble très dur. Parce que je trouve qu'à ce moment-là, on se sent assez coupé du monde, quand même. Si... Oui. À moins qu'on ait des ouvertures par son mari, des enfants plus grands après, qui fassent qu'on a quand même une certaine ouverture sur le monde. Autrement, c'est dur, il y a un problème, hein, pour les femmes.
Oui. Oui, bien sûr. Est-ce que vous aimeriez, vous-même, avoir une profession ou
Actuellement, non. Vous voyez, je n'en ressens pas le besoin.
Non.
Étant donné que j'ai trouvé d'autres activités ailleurs, si vous voulez, qui me permettent d'avoir, de rencontrer beaucoup de personnes et de me sentir quand même utile et faire quelque chose.
Oui. Eh bien, votre temps libre maintenant, qu'est-ce que vous en faites?
Alors, le temps libre, vous savez, on en a au fond assez peu. Je vous dis, l'après-midi, de 2 à 5, par exemple, j'ai quand même du temps libre. Alors, où je m'occupe de ce mouvement, je m'occupe également d'un mouvement d'action catholique. J'ai une responsabilité assez importante dans ce mouvement-là, ce qui me fait rencontrer pas mal de personnes. Et puis j'ai toute ma famille sur Orléans. Alors ma belle-mère, qui est une personne âgée, il faut que j'aille voir au moins une fois par semaine, vous voyez. Enfin, puis s'occuper quand même des professeurs des enfants. J'en ai 5 en âge scolaire. Alors au moins une fois par mois, je vais voir quelqu'un, forcément. Autrement, les temps libres, si vous voulez, où je peux faire ce que je veux, je fais pas mal de couture, où je lis.
Ah oui. Vous faites les vêtements.
Je fais les vêtements de mes filles.
Oui.
De moi, enfin, au point de vue, j'avais pris des cours de coupe et de couture après mes études. Oui. Et ça me sert beaucoup parce que j'aime ça. On a l'impression de créer quelque chose.
Oui,
on s'était fait la réflexion justement à une équipe UFCS et en disant, c'est intéressant, on a créé quelque chose.
Oui. Est-ce que vous dessinez vous-même les vêtements ou c'est ça?
Oh non, j'achète des patrons.
Oui.
Non, je n'en suis pas là.
Non, très bien. Est-ce que vous voudriez bien me décrire, enfin, simplement un exemple, comment est-ce que vous avez passé dimanche dernier?
Laissez-moi réfléchir, dimanche dernier. Dimanche dernier, j'avais un garçon qui n'était pas là, qui était parti faire un camp scout, dimanche matin. Alors, je suis restée donc avec les quatre autres enfants et mon mari. Bon, le matin, on se lève très tard le dimanche, parce qu'on attend qu'on a envie de se réveiller, qu'on n'a pas d'obligation autre. Dans la matinée, nous sommes allés à la messe. Et ensuite, je préparais le déjeuner. Après déjeuner, comme j'avais du monde qui devait venir le soir, j'ai donné un bon coup de ménage parce que s'il en avait besoin. Et après ça, nous sommes partis nous promener en voiture avec les enfants et mon mari. Et comme une de mes sœurs qui habite Paris était chez mes parents ce jour-là, on était goûté chez mes parents. Et en fin d'après-midi, je suis partie avec deux de mes aînés, mes deux filles aînées, à la Ferté-Saint-Aubin. C'est un petit pays qui est à 20 km. Chercher une amie de ma fille qui devait venir coucher à la maison ce soir-là pour que je les emmène le lendemain prendre un train au Mans et elle partait en Bretagne. Alors le soir, le dimanche soir, alors là on ne fait pas de dîner à la maison, parce que le dîner enfin, en France c'est assez traditionnel, on se met à table, etc. Et nous le dimanche soir on a pris l'habitude de manger chacun un sandwich comme il voulait dans la cuisine, de se servir pour ne pas avoir de complications de cuisine et de vaisselle. Puis après dîner, les enfants ont regardé un film à la télévision. On a regardé ça ensemble, tout en tricotant, parce que j'aime bien tricoter en regardant la télévision. On s'est couché vers 11h.
C'est une journée bien remplie quand même, dimanche. Et maintenant, les vacances d'été, qu'est-ce que vous ferez?
Alors, les vacances d'été, c'est assez spécial chez nous, parce que mon mari est fabricant de vinaigre. Donc une profession qu'il prend l'été beaucoup plus que l'hiver, étant donné qu'on mange davantage de crudité, donc davantage de vinaigre. Et lui ne peut pas prendre de vacances pendant l'été, ça lui est très difficile. Alors les autres années, nous partions tous en septembre, que les vacances scolaires permettaient encore de partir en septembre, et puis les enfants partaient en colonie, en camp, vacances. Alors nous cette année, puisque nous avons déménagé d'ici, l'appartement étant trop petit, on va prendre une maison plus grande. Et on doit déménager au mois de juillet, alors on a dit cette année, tant pis, on partira pas. Les enfants partiront tous, si vous voulez. J'en ai deux qui partent en camp avec les guides, les scouts, quoi. Une autre qui va probablement aller en Espagne, parce qu'elle fait une espagnole en première langue. Donc elle partira un mois en Espagne. J'en ai un plus jeune qui part faire une colonie de vacances en Bretagne, à Pérouse-Guirec. Et un garçon qui va refaire un camp scout. Et puis, autrement, on restera à Orléans. Oui. Nous avons pris des vacances en février. Au sport d'hiver, on est allé en février. Alors cette année, on m'a dit, ben, pas de vacances familiales, quoi, pour tout le monde en même temps. Pour arranger cette maison.
Bien. Encore une période très mouvementée.
Oui, oui. Oui, ça sûrement. Plutôt qu'on déménagera au début de juillet, sans doute. Si tout les classes terminées.
Si vous aviez 2 heures de temps libre supplémentaire par jour, qu'est-ce que vous feriez de ce temps libre?
Ben, je ferais peut-être davantage de sport. Oui. Vous voyez, parce que j'en fais très peu, on se rouille, si on peut dire. Je m'en suis aperçue en allant au ski cette année, je suis raide comme tout. Alors je crois que je ferais davantage, je pourrais du tennis, j'irais à la piscine. S'il y avait des piscines Orléans suffisantes, je crois que j'irais davantage.
Ah oui, oui.
Et puis je lirais davantage sûrement, parce qu'on n'arrive à pas avoir le temps de lire beaucoup.
Ah oui, oui. On reviendra peut-être là-dessus plus tard. Mais maintenant, parlons des enfants un petit peu. À votre avis, qu'est-ce qu'on devrait apprendre surtout aux enfants à l'école?
Ben, je pense qu'on devrait leur apprendre, évidemment, les enfants, oui, à quel âge vous pensez? La lecture et tout, à ce point de vue-là, vous voulez, vous, non?
N'importe quel âge.
Ben, peut-être à vivre en société, déjà, oui. Et à prendre leurs responsabilités et davantage, vous voyez, au sein de leur classe. Enfin, évidemment, qu'on leur apprenne à lire, qu'on leur apprenne à se cultiver également. Oui. Et que ce ne soit pas trop livresque. Parce qu'au fond, je ne sais pas si c'est le défaut en Angleterre, mais en France jusqu'à maintenant, l'enseignement qu'on leur donnait est un enseignement très, très livresque et assez coupé de la vie.
Ah oui.
Enfin, je trouve, pour certaines choses. Et il me semble qu'on devrait davantage leur apprendre à vouloir se cultiver par eux-mêmes. Parce que beaucoup font ce qu'on appelle du bachotage. On travaille pour l'examen et sans faire tellement le rapport avec la vie. Il y a un nouvel enseignement qui vient de plus en plus de prendre, c'est l'enseignement technique. Et j'en ai une mon aînée qui est dans une classe de technicien économique, où on travaille beaucoup plus par exposé, c'est beaucoup plus relié à la vie. On travaille beaucoup plus, elle fait des exposés, elle fait des recherches personnelles. Elles apprennent à chercher par elles-mêmes plutôt que ça leur soit donné directement par des livres. Il me semble que c'est très valable comme genre d'enseignement.
Oui. Oui. Dans quelle matière est-ce que vous aimeriez que vos enfants soient forts, surtout?
Ben, mes garçons, j'aimerais bien qu'ils soient forts en maths.
Oui.
Et puis les filles, en langue peut-être, j'aimerais aussi. Il me semble qu'une fille avec se débrouillant en langue...
Pourquoi pour les garçons les maths et pour les filles les langues?
Écoutez, pour les garçons les maths, parce que je pense que des carrières d'ingénieurs sont quand même, à mon avis, davantage dans la ligne d'un esprit masculin. Mm-hmm. Et davantage, un garçon, il me semble, s'il était littéraire, aurait beaucoup plus de mal, à part s'il veut être avocat ou professeur, à trouver une situation à l'époque actuelle. Alors que s'il était bon en mathématiques, il puisse être, je ne sais pas, moi, ingénieur, programmateur, enfin... Il me semble que c'est plus valable pour un garçon.
Ah oui, et pour les filles, les langues?
Ben, oui, les filles. Hein. Il me semble que... une fille, moi j'en ai une qui fait des sciences, celle que vous avez vue là. Elle est davantage... Mais elle a un esprit un peu masculin pour certaines choses, on a l'impression. C'est très catégorique, c'est très classé, c'est très scientifique. C'est...
Oui.
Il me semble qu'une femme peut davantage... devrait davantage s'épanouir dans des contacts avec les autres. Mm-hmm. Vous voulez, c'est plus... Enfin, à mon avis, c'est plus dans le sens féminin de...
Mm-hmm. D'apprendre à parler, d'apprendre à parler
d'autres langues. Oui, qui permettent davantage de contacts, si vous voulez, si elle était une secrétaire bilingue ou... Mm-hmm. Et d'avoir des contacts dans sa profession. Mm-hmm. Alors qu'à mon avis, il me semble que des ingénieurs peuvent davantage seuls dans leur...
Y a-t-il d'autres professions qui vous semblent féminines, à part secrétaire ou
des professions... Toutes les professions médicales me semblent assez féminines également.
Oui. professeur ou...
Ah, professeur, oui, ça, tout
oui.
à fait. Oui, oui.
Oui.
Ça, oui, je pense que c'est une profession très... Oui. très du fait que c'est très compatible avec une vie de famille, mm-hmm. peut-être encore davantage.
Oui, et l'administration pour...
Oui,
les
oui, l'administration.
Mm-hmm.
Comme oui. ça, sans...
Oui. Que pensez-vous du latin à l'école?
Écoutez, je pense que le latin, c'est très bon pour, au point de vue formation d'esprit.
Ah oui.
Moi, j'en ai fait étant jeune. Mes enfants, j'en ai une qui en a fait jusqu'à pendant 4 ans, qui a arrêté après parce qu'elle était vraiment pas bonne et elle perdait tout son temps là-dessus. Mais elle-même dit qu'elle est très contente d'en avoir fait, que ça l'a aidé beaucoup. Mais un enfant, à mon avis, qui a des difficultés scolaires, si on lui met le latin en plus, ça me semble difficile.
Mm-hmm.
Mon plus jeune n'a pas commencé le latin en sixième, puisque maintenant il y a eu la réforme le mois d'octobre.
Oui.
Et lui, je regrette, parce que
oui.
je pense que...
Formation de l'esprit dans
quel
sens?
Formation de l'esprit dans le sens... d'abord, au point de vue français, ça aide beaucoup,
oui.
parce que c'est quand même le français vient du latin, donc au point de vue analyse, au point de vue construction de la phrase, je pense que c'était très bon d'avoir fait du latin. Et puis, au point de vue culture générale, vous voyez... Pour des enfants qui aiment ça, enfin, je trouve qu'il ne faut pas pousser tout le monde non plus peut-être à vouloir le faire, si on n'a pas, si c'est une chose de plus qui est surajoutée dans la classe.
Mm-hmm. Ah,
mais
oui.
quoi que le latin, je pourrais être en voie de disparition.
Oui, il semble.
Oh,
oui, il semble. Et vous regrettez.
Moi, je regrette pour ceux, si vous voulez, qui, il y a quand même une certaine culture. Ben, vous direz que c'est peut-être un peu l'homme cultivé d'autrefois dont on parle quand c'est comme ça.
Oui.
Mais c'est dommage pour certains. J'ai une de mes filles qui elle n'en a pas fait, n'en fera jamais. Et cette pauvre fille, si elle avait fallu qu'elle ait ça en plus, ça lui aurait semblé difficile, si vous voulez. Mm-hmm.
Jusqu'à quel âge est-ce que vous pensez que les enfants devraient pousser leurs études?
Ben, écoutez, tout dépend des enfants. Je pense que c'est très difficile de donner une règle générale. Mmh. Si on parle d'études, enfin, là actuellement la scolarité jusqu'à 16 ans, mais ça me semble enfin assez un minimum quand même.
Oui.
Quoique beaucoup de personnes regrettent qu'il n'y ait plus d'apprentis maintenant dans les métiers qui se forment de bonhomme. Enfin, ça c'était un autre problème. Mais je pense qu'un jeune qui veut vraiment faire des études et qui en a les moyens, si vous voulez, si on les pousse et qui redouble des classes sans arrêt, à mon avis, c'est un peu. C'est perdre son temps peut-être.
Mmh. Et l'âge maximum de faire des études?
De faire des études supérieures, vous
oui.
voulez dire ceux qui sortent médecins ou...
Oui.
Bon, moi, je pense qu'à 25 ans, à 26 ans, ça devrait être fini.
Oui.
Tout en se recyclant, si vous voulez.
Oui.
Continuellement, enfin, en pouvant
oui.
se...
Mm-hmm.
En suivant des séminaires ou des cours de recyclage comme il existe, parce que je crois que maintenant, ça va être indispensable.
C'est la même chose pour les garçons et les filles, pensez-vous?
Je pense qu'une fille, il faudrait... Enfin, les garçons pourraient bien aller faire des études plus loin, c'est peut-être... Mais des filles, je pense pas qu'il faut leur demander des choses trop poussées si elles peuvent pas.
Mm-hmm.
Je pense qu'un garçon, en tant que parent, on doit les pousser le maximum. Des filles, qu'elles s'épanouissent où elles ont à s'épanouir, quoi, suivant leur personnalité. Mais je crois pas que je pousserais des filles à faire des études trop longues si vraiment elles ont des difficultés et qu'elles peinent.
Oui, bien sûr. Eh bien, pour revenir à la ville d'Orléans, est-ce que vous pensez qu'on fait assez pour les habitants?
Écoutez, au point de vue sportif, équipement sportif, il n'y a pas grand-chose.
Mm-hmm.
C'est vraiment le point noir. Il faudrait certainement qu'il y ait des piscines davantage et des terrains de sport, enfin... c'est très agréable au point de vue fleurs, vous voyez, la ville est fleurie, elle est assez accueillante, mais je crois que la municipalité devrait penser davantage aux jeunes, parce qu'il y a quand même tout un problème, les jeunes sont de plus en plus nombreux, et il n'y a pas tellement de choses pour les jeunes.
Ah oui.
Du reste, au point de vue, enfin, le théâtre c'est municipal, si vous voulez, bon, ben, le théâtre il est minuscule, il est vieux, vieillot, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Oui, oui.
Alors, il y a des progrès à faire à ce point de vue-là, certainement.
Mm-hmm.
Je sais bien qu'Orléans a été sinistré à la guerre de 40, il a fallu reconstruire, qu'il y a maintenant la source qui est en train de se monter et que ça demande certainement ça fait des gros frais pour la ville, mais enfin...
Alors on pourrait faire davantage pour les jeunes.
Ah, pour les jeunes, pour une ville qui pense sportif, oui, certainement. Il n'y a qu'une malheureuse piscine qui est une piscine à ciel ouvert, donc l'hiver pas question à ciel ouvert, oui. Donc l'hiver pas question d'aller à la piscine.
Qui sont les personnes ou enfin qui sont les gens qui ont de l'influence dans la ville?
Ce que je pense, vous avez le conseil municipal et puis qui ont vraiment de l'influence. À part le conseil municipal, quelles sont les personnes?
À part le conseil municipal, oui, peut-être.
Certainement qu'il y a des gros industriels qui peuvent avoir une influence du fait du nombre de personnes qu'ils emploient.
Ah oui.
Ben, ça se retrouve au plan national aussi, si vous êtes une industrie assez importante. Ce n'est pas la personne elle-même, si vous voulez, que le nombre de personnes qu'elle représente.
Ah oui. Vous devez en connaître vous-même étant né à Orléans. De ces gros industriels.
Oui, mais enfin, remarquez que maintenant, avec la concentration qui se passe, des gros industriels orléanais, il y en a qui ont été, dont les usines, ont été regroupées avec des marques nationales ou même étrangères. Si bien qu'eux ont maintenant des postes de subalternes, si vous voulez, au sein même de l'entreprise.
C'est Dessault, je crois.
Dessault, le vinaigre.
Dessault, le vinaigre.
C'est
Dessault.
Chez Dessault. Non, mon mari est fabricant de vinaigre. C'est la vinaigrerie des Bois.
Ah oui.
Qui est Faubourg Bannier. En face, se met un magasin Francis. Enfin, je ne sais pas si vous voyez très bien. Ah, Faubourg Bannier, d'après la place Gambetta. Dessault a été justement repris par la Générale Alimentaire, par une marque nationale, quoi. Et les Dessault, maintenant. Qui était une affaire qui était familiale au départ, si vous voulez. Maintenant, ils sont plus dedans, pratiquement. Non, mon mari, c'est une petite une industrie, ils ont une trentaine d'employés, quoi.
Ah oui. On a beaucoup parlé des événements de mai dernier. Et nous qui n'étions pas en France à ce temps-là, nous voudrions savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous pourriez me dire?
Ce qui s'est passé à Paris, ce qui s'est passé sur Orléans.
Les deux, si vous voulez, ou comme vous voulez.
Comme je veux. C'est tellement confus, ces histoires d'événements du mois de mai.
Oui.
Orléans, ça a été assez calme, parce que Orléans, quand même, est une ville assez calme, il y a eu des manifestations, évidemment. Mais à Paris, j'ai un frère qui était étudiant à Paris, moi, à ce moment-là. Et je crois qu'au départ, il y avait certainement un mécontentement. Enfin, moi, c'est mon avis personnel que je peux vous donner bien uniquement, qui a été exacerbé et certains en ont profité, si vous voulez, certaines personnes politiques en ont profité, à mon avis, pour échauffer encore l'affaire, noyauter tous les jeunes qui étaient là et permettre que ça explose et que ça aille mal. Alors, les syndicats ont été ensuite débordés par la base, étant donné que tout le monde voyait que ça allait lâcher, tout le monde disait De Gaulle va partir, il n'y aura plus personne, demandons, profitons, essayons d'en avoir le plus possible.
Comment est-ce que les événements ont terminé? Qu'est-ce qu'il y a?
Le premier discours de De Gaulle
a
été un coup d'épée dans l'eau, étant donné que ça n'a pas donné de suite, si vous voulez, la première fois qu'il a parlé. Puisque la seconde fois, c'était un message qui était radio, à la radio uniquement et pas à la télévision. Ça a certainement eu une influence. Certains disent que ça leur a rappelé le De Gaulle, vous voyez, de 40, qui était en Angleterre, qui envoyait un message comme ça sur les ondes. Et là, je pense qu'il a repris la situation en main après son second discours. Alors que le premier discours, non. Les Pompidou n'étaient pas là.
Et c'est De Gaulle qui a tourné la situation.
Ah, moi, je crois, oui, que c'est la personnalité de De Gaulle qui a retourné la situation.
Ah oui. Comment est-ce que vous expliquez les événements?
Je pense qu'il y a eu un mécontentement. Moi, je pense qu'il y a politiquement en dessous, il y a eu Mais moi, je serais bien exprimé, là, je suis en train de voir ça. Je vais pouvoir faire des coupures.
Ne vous gênez pas, madame, enfin.
Non, au point de vue. Moi, je suis persuadée que de l'étranger, enfin des pro-chinois, vous voyez, des maoïstes, oui. des gens de Cuba, etc., ont noyauté des jeunes qui, après ça, refusaient toute autorité, hein, qui refusent. Enfin, il y a quand même, les jeunes ont été très marqués par cette chose-là. Il y a quand même des grèves qui ont duré, dans l'enseignement, qui ont duré assez longtemps. Mais alors, chacun avait des raisons de se plaindre pour certaines choses dans sa spécialité propre et dans sa sphère propre. Et puis tout a été mis en bloc, alors que les professeurs se plaignaient certainement des locaux qui étaient trop petits, du nombre d'élèves qui étaient trop grands, des méthodes pédagogiques qui étaient certainement trop anciennes. Les syndicats, eux, ont dit on veut de l'augmentation, on veut davantage de participation dans l'entreprise, puisque c'était ça également. Enfin, tout ça, ça a été mis ensemble, ça bouillonnait, les gens disaient c'est la masse et c'est rien du départ. Et moi qui habite à côté de la poste, là, vous voyez, je voyais les employés de la poste rentrer le matin. C'était la grève. Donc, on n'avait pas le droit de rentrer. Il y avait un piquet de grève qui était là. Certains voulaient rentrer. Alors, ils rentraient, on leur faisait des ouh, enfin un peu en se moquant d'eux. Il y avait une femme un matin qui voulait rentrer. On n'a pas laissé rentrer, on a dû lui expliquer pourquoi il fallait qu'elle fasse sa grève, etc. Alors après ça, c'était la plus acharnée. Elle était à la porte, elle gesticulait, elle vociférait. Quand il y avait une voiture de la poste qui voulait sortir, elle se mettait bras en croix devant, l'air de dire vous passerez sur mon corps si vous voulez. Enfin, vous voyez, alors, on a l'impression qu'il y avait une petite minorité qui a remué tout le monde, et puis les gens sont un peu moutons. On leur a promis monts et merveilles, et puis. Ils ont continué le mouvement de grève. Là, c'est un peu dans ce sens-là, moi, je...
Ah, mais ça, c'est très intéressant de vous entendre parler de cela, parce que on se demande...
C'est peut-être pas tous les mêmes sons de cloche, les personnes que vous interviewez, évidemment. Les personnes que vous avez vues...
C'est-à-dire qu'il y a des points de vue variés, oui, mais... Enfin, il y a évidemment une grande compréhension des événements qui nous manquent à nous.
Parce que vous voyez, mon mari, qui est donc fabricant de vinaigre, a une entreprise avec une trentaine d'employés. Et dans des entreprises à ce niveau-là, il n'y avait pas tellement de problèmes de participation, de contact avec le patron. On les connaît quand il y a 30 personnes. Mais les ouvriers d'eux-mêmes ont été fermés les portes de la vinaigrerie en disant « il y a des piquets de grève de syndicalistes qui vont passer, nous obliger à fermer. Donc on ferme, on travaille les portes fermées pour que personne ne vienne nous déranger. » Ce sont les ouvriers eux-mêmes. Parce que je vous dis, c'est une petite entreprise, ça posait moins de problèmes dans ces cas-là. Alors que dans les banques, par exemple, il y a des syndicalistes qui allaient le matin, ils ont fermé un certain samedi, enchaîner les portes des autres banques pour que ça n'ouvre pas. Et la banque qui a démarré à Orléans, c'était une banque où il y a beaucoup de jeunes. C'est un conflit beaucoup aussi de générations, je pense.
Très intéressant.
Jeune adulte. Ici, les écoles ont été fermées pendant 6 semaines. Moi, les miens qui sont dans les écoles privées n'avaient donc pas. Faisaient grève si on voulait, si on ne voulait pas. Ça donnait un espèce de climat d'énervement. Les professeurs, certains voulant expliquer aux enfants pourquoi. Alors, quand on est en seconde, qu'on a donc 16 ans, moi je veux bien qu'on discute un peu, qu'on explique quelque chose. Mais des enfants qui sont plus jeunes, moi je trouve que là c'était un peu. Prématuré et ridicule. Si bien que ma fille, celle que vous avez vue tout à l'heure, là, m'a dit moi, je commence à en avoir assez à un moment d'entendre, vous savez, les discussions, est-ce qu'on doit faire la grève? Alors, on y allait si on voulait. On ne pouvait pas, les enfants qui n'allaient pas en classe, on ne pouvait rien leur dire, bien que l'enseignement privé faisait grève ou pas comme il voulait. Alors, comme il y avait des pères qui étaient syndicalistes et qui étaient grévistes, il y a des parents qui ont dit nous, on fait la grève, nos enfants n'iront pas en classe non plus. Alors dans la classe d'une de mes filles, il en a manqué une enfant pendant un mois. Alors qu'officiellement, leur école ne faisait pas grève et ne pouvait pas empêcher les élèves ou les professeurs de faire grève.
Est-ce que cela a eu un effet très marqué sur vos enfants?
Du fait qu'ils étaient dans l'enseignement libre, je crois que ça les a moins marqués, si vous voulez, mais d'énervement. Ça a très énervé à ce moment-là. Mais dans les jeunes en général, on sent qu'il y a quand même maintenant une certaine contestation. Chez les miens, pas tellement encore. Non. Je sais bien que j'ai été très contente que mes enfants n'aient que 16 et 16 ans à l'époque. Ils auraient eu 18 et 20 ans. Vous voyez, j'aurais été plus ennuyée. J'ai un frère qui a 21 ans. Et je trouve que depuis ce moment-là, je le vois de temps en temps parce que mes parents sont orléans, il y a quelque chose qui a changé. Dans ses rapports avec mes parents, avec la famille, il a découvert un autre monde, si vous voulez, peut-être à ce moment-là, je ne sais pas. Enfin, il y a un rapport avec mes parents qui n'est plus le même qu'avant. Il a été certainement très marqué. Il a vécu une nuit sur les barricades. La première nuit, il y était, un peu en bateau, vous savez, pour aller voir ce qui se passait. Et en disant, si, il faut des réformes, on y va. Et puis quand il a vu que certains commençaient à dépaver les rues et à s'envoyer des pavés, ils ont dit, mais les garçons, vous êtes fous, arrêtez. Vous savez, une foule déchaînée. Alors quand ils ont vu ça, eux, ils sont partis. Il avait sa voiture pas loin et dans la nuit, il a transporté des blessés. Alors il est revenu à Orléans le lendemain, dans un état de tension, d'énervement, de... Mais alors, c'est ce qu'il nous disait, Orléans ne peut pas se rendre compte de l'ambiance qu'il y avait à Paris. Parce qu'ici, on était une vie très calme, ils ne se rend pas compte du tout. Il y a eu quelques défilés qui partaient de la poste à côté. On faisait des défilés calmes, si vous voulez. C'était pas... Alors, je crois qu'en province, on ne se rend pas compte de l'ambiance qu'il y avait à Paris à ce moment-là. Pour ceux qui étaient assez mêlés aux événements. Enfin...
Oui. Alors, vous avez changé de sujet encore. Est-ce que vous pensez que les différences entre les classes sociales sont très marquées à Orléans?
Je pense qu'Orléans, c'est une vieille ville assez bourgeoise, enfin oui. Qui était bourgeoise, et je pense que c'est assez marqué. Mais il y a tout un afflux, un nouvel afflux de population qui arrive, avec toutes les constructions neuves, des industries qui sont mises, et puis il y a IBM, il y a l'université, vous avez Saint-Gobain, etc., des personnes nouvelles qui arrivent et qui disent qu'elles ont beaucoup de mal à rentrer dans le milieu orléanais. Mais ça, Orléans, il y a encore une vieille aristocratie et haute bourgeoisie, si je peux dire, qui existe. Et je crois que les classes sociales vont s'aplanir, vous voyez. Étant donné que j'ai une amie, justement, enfin, qui est vraiment d'un milieu très, très haute bourgeoisie. Et sa fille s'est mariée l'année dernière, sa fille travaille. Elle, ça lui semble un monde que sa fille puisse travailler. Du fait qu'elle travaille avec des horaires assez irréguliers et qu'elle n'est en général pas là à l'heure du déjeuner, alors que son mari est seul. Alors pour ces personnes-là, vous voyez, ça leur semble très impossible qu'une femme ne soit pas là quand son mari est là. Mais je crois qu'avec le temps, le genre de vie des gens se rapproche. Les gens vivent davantage tous un peu plus de la même façon.
Ah oui.
Ben, tout au moins dans le milieu entre l'aristocratie, la bourgeoisie, les ingénieurs, les cadres, ces gens-là. Évidemment, le milieu ouvrier n'a pas encore le même genre de vie. Mais enfin, dans le milieu qu'on appelle indépendant, si vous voulez, qui est un monde assez étendu, je trouve que les différences sociales se font moins sentir.
Oui. Et comment est-ce que cela se fait?
Ben, du fait, je crois que les jeunes vont en classe tous ensemble, beaucoup plus maintenant dans les mêmes écoles. Il y a beaucoup de jeunes dans les lycées, enfin, toutes les classes sociales se trouvent mélangées.
Ah oui.
Et même au point de vue, il y a beaucoup de personnes qui ont par exemple des enfants au lycée, d'autres dans des écoles privées, dans une même famille. Si bien qu'au mois de mai, quand il y a eu nos fameux événements, eh bien... Les jeunes, il n'y a pas eu de coupure qui existait avant, très très grande, entre l'enseignement privé et l'enseignement libre. Au point de vue élève, ça ne s'est absolument pas senti. Ça s'est senti au point de vue professeur, mais pas au point de vue élève. Le recteur de l'académie était étonné de voir des élèves d'une école de garçons de Sainte-Croix, enfin une école privée, venir avec des élèves du lycée proposer la forme du baccalauréat. Vous voyez comment ça devrait être. Il était étonné de voir que les jeunes s'entendaient bien. Alors je crois que... Par les jeunes et puis les femmes, les filles, de plus en plus faisant des études et travaillant, n'auront plus cette vie qu'avait leur mère de personnes enfin, très bourgeoises, très aidées. D'abord, on ne peut plus se faire aider tellement au point de vue aide de ménagère. Alors je crois que ça fait beaucoup que les filles fassent des études et aient plus ou moins une profession, qu'elles exercent ou pas. Le genre de vie des personnes, certainement, va s'égaliser.
Oui. À quoi est-ce qu'on reconnaît un membre de la haute bourgeoisie?
Il y a une classe, une certaine distinction.
Oui. Comment penser?
Il y a plusieurs classes. L'aristocratie, par exemple.
Oui.
Ce sont souvent des personnes très simples qui se rapprochent des personnes les plus simples, si vous voulez, de par leur habillement, de par toutes sortes de choses, et très avenantes. Et alors, il y a une autre classe, qui est un peu la haute bourgeoisie, qui a davantage ses distances, à mon avis, vis-à-vis des autres personnes de la... On ne se reçoit qu'entre personnes un peu du même milieu, vous voyez.
Et pourquoi cette différence entre l'aristocratie et la haute bourgeoisie?
Mais l'aristocratie, c'est une aristocratie, enfin, sur Orléans, qui est assez d'origine terrienne.
Ah oui.
Qui vient donc des propriétés qu'il y avait en Sologne, dans le Berry, enfin. Donc des gens qui ont vécu, enfin, leur génération précédente vivait à la campagne avec davantage de contact avec leurs paysans, si vous voulez. Alors c'est peut-être un peu encore une forme de paternalisme, on s'occupe davantage des autres, peut-être, c'est une forme comme ça. Et puis comme ce sont des personnes qui ont déjà un nom très assis et très connu, elles ont leur réputation sur la ville, enfin, alors donc elles n'ont pas besoin de paraître ou d'avoir un apparat, leur nom leur suffit. Ça leur suffit pour le moment encore, notez, mais...
Oui.
J'ai un de mes frères qui travaillait, il est dans les pétroles BP, et il travaillait avec un garçon qui était vraiment pas très intelligent, si vous voulez, mais qui avait un nom, il me dit avec son nom, il croit qu'il va passer partout. Vous voyez, c'est...
Ah oui, je vois que ce n'est pas si différent que je n'avais pensé de l'Angleterre, vous voyez.
Oui.
C'est un peu ce qu'on dirait dans l'Angleterre aussi. Oui. Que les noms, ça fait passer.
Ah,
des fois. Oui. Bien, alors nous allons passer maintenant à autre type de questions, madame, si vous voulez. Des questions un peu plus précises. Y a-t-il chez vous un dictionnaire ou des dictionnaires?
Oh, oui, il y en a plusieurs.
Plusieurs. Vous voudriez me les nommer?
Il y a les Larousse en 3 volumes. Ça, c'est les gros Larousse.
Gros Larousse en 3 volumes.
Oui, en 3 volumes. Oui. Et puis alors, les enfants ont chacun un dictionnaire Larousse, qui est Larousse classique.
Classique.
Oui. Et puis il y a des dictionnaires de synonymes.
Il y en a 5. Alors,
oui, c'est ça.
Dictionnaire de synonymes.
De synonymes. Qu'est-ce qu'il y a l'autre? Oui, je crois que c'est tout. J'ai un dictionnaire.
Oui. Et où est-ce que vous les gardez?
Il y en a 3 qui sont là. Les gros Larousse sont à l'entrée. Là.
Oui. À l'entrée. Et puis.
Et les enfants les ont dans leurs affaires, dans leur bibliothèque.
La bibliothèque.
Dans leur. Enfin, les enfants, c'est dans leur secrétaire.
Oui.
Et moi, j'en ai un autre dans la bibliothèque. Là, c'est une certaine bibliothèque. À l'entrée, on a une étagère de livres. Là, c'est pour ça.
Oui, c'est ça. Depuis quand les avez-vous, ces dictionnaires?
Les 3 volumes ont paru il y a, je sais plus, 2-3 ans, depuis leur parution, il n'y a pas très longtemps.
Vous les avez achetés?
Oui, bien les achetés. On n'a pas encore hérité des parents.
Pardon?
Je dis en rien qu'on n'a pas encore hérité des parents qui ont un gros dictionnaire.
Non.
J'ai un Larousse ménager aussi.
Ah oui.
J'ai pensé à ça.
Oui. Ça, je mets là. Et vous les avez achetés à Orléans?
Orléans, oui.
Dans un
magasin librairie.
Oui. Librairie à Orléans. Qui s'en sert le plus souvent?
Des dictionnaires, mon mari et mon plus jeune fils. J'ai 10 ans.
Ça, c'est intéressant. Et vous-même, combien de fois par mois? vous par pose an, une ou question. Par semaine ou...
Combien de fois par mois? Oui, je m'en sers 4 fois par mois, peut-être à peu près.
Oui, 4 fois par mois. Quand est-ce que vous l'avez regardé pour la dernière fois, n'importe quel dictionnaire?
Oh, il doit y avoir 2 jours.
2 jours.
En faisant des mots croisés.
Ah oui, j'ai une question aussi sur les mots croisés à venir. Quel genre de choses y cherchez-vous le plus souvent?
Des définitions assez précises. Ou des situations de ville. Ou alors une question d'histoire.
Et vous avez le Larousse ménager, oui. Vous avez d'autres dictionnaires du même genre, médical, astronomique?
Médical, non.
Est-ce que vous avez un livre sur l'art de parler? Prononciation?
Non.
L'art d'écrire?
Si ça se trouve, mon mari les a, j'en sais rien du tout.
Non, les difficultés de la langue française?
Non.
Non, je crois que le dictionnaire des synonymes, c'est autre chose. Un guide de politesse ou de savoir-faire?
Non, je n'ai pas.
Non. Pourquoi?
Jamais pensé,
oui. Je ne sais pas exactement pourquoi on me fait poser toutes ces questions, mais enfin...
Il existe des livres de savoir-faire.
Oui. Vous faites des mots croisés?
Oui.
Oui. Lesquels?
Oh, dans les journaux.
Journaux.
Tout simplement.
Oui. Combien de fois par mois, par jour, par semaine?
Oh, un petit 2 fois par semaine.
Oui, vous les aimez.
Pourquoi? Je m'y suis remis. On s'y est mis pendant les vacances.
Oui.
Parce qu'on avait du temps. Alors pendant les vacances, on s'est remis à en faire. Et puis. Bon, un certain esprit de déduction, j'aime bien.
Oui. Est-ce que vous pourriez me rappeler ce que vous avez dit sur le latin à l'école? Pensez-vous qu'il soit utile que les enfants apprennent le latin à l'école?
C'est oui et non. Moi, vous savez, je trouve très difficile de répondre oui. Ça dépend des... Je pense que ça dépend des enfants. Et ça donnait une culture qui était... qu'on est en train de perdre.
Oui. Que pensez-vous du franglais?
De ces mots français-anglais, la moitié... Oh, je trouve que c'est pas tellement bon. J'aime pas tellement.
Vous êtes plutôt contre?
Oui.
Oui, pourquoi?
Bon, je trouve autant garder carrément les mots d'une langue que de franciser ou d'anglicaniser, je ne sais plus comment on dit,
Oui. Alors, y a-t-il des différences selon vous dans la façon de parler français entre les gens appartenant à des différents milieux sociaux?
Ah oui, certainement. Que mes filles m'ont dit ce matin, tu tâcheras de bien parler.
Pardon?
Mes filles m'ont dit ce matin, tu tâcheras de bien parler, de ne pas dire 2 mots. Ah. Non, mais enfin, il y a une différence de s'exprimer très nette.
Oui.
Je sais pas, une des personnes des milieux ouvriers, si vous voulez, s'expriment d'une façon beaucoup plus crue, beaucoup plus... ce sont des phrases moins balancées, mm-hmm. Vous voulez, moins...
Y a-t-il d'autres différences que vous pourriez distinguer?
Dans la façon de parler?
Oui.
Et puis une question d'accent, enfin non seulement de forme de phrase, mais également de tonalité, peut-être d'élocution, vous voyez.
Oui, comment est-ce que vous expliquez?
Je
crois que ça vient de la petite enfance, comment les enfants ont été éduqués chez eux à parler.
Selon vous, en général, est-ce que les gens parlent de mieux en mieux, de plus en plus mal ou sans changement?
J'en sais rien du tout.
Non.
Bon, je sais pas, j'en sais rien.
Parmi vos connaissances, quelle est la personne qui parle le mieux le français? La profession, simplement, il me faut.
Une profession, la profession?
Oui, la profession, oui. Parmi les gens que vous connaissez. Oui, et il y a des gens que vous ne connaissez pas, que vous entendez parler. Parmi ceux-ci, qui est-ce qui parle le meilleur français?
Que je ne connais pas, que j'entends parler.
Oui.
Alors que j'entends parler, par exemple, à la radio, à la télévision?
Oui.
Hein?
Oui.
Qu'est-ce qu'ils font? Un historien.
Oui.
Que j'entends, oui.
C'est un historien qui fait des programmes à la radio.
Oui.
Oui.
Donc il fait des émissions sur France Culture.
Oui. Y a-t-il en France un organisme qui décide si un mot ou une expression fait partie ou non du bon français?
C'est l'Académie.
Oui. Et est-ce très utile ou utile ou sans utilité?
Je crois que c'est utile.
Utile. Pourquoi?
Utile.
Oui. Pourquoi?
Ah, pourquoi? Parce qu'on va, autrement on va... C'est utile pour la sauvegarde de la langue.
Oui.
Autrement on va inventer des mots et... La sauvegarde et la pureté de la langue.
On dit quelquefois que la langue française se dégrade. Qu'est-ce que vous en pensez?
La langue française se dégrade. Dans le langage parlé et courant des gens, qu'elle se dégrade.
Oui.
Il y a peut-être du vrai. Il doit y avoir du vrai, là, oui.
Oui. Et cela tient à quoi?
Enfin, moi qui vois pas mal de jeunes, je m'aperçois, enfin, il y en a une catégorie qui parle pas mal, et puis il y en a d'autres, où est-ce que c'est un certain âge, enfin, je pense aux jeunes, là, j'ai des garçons de l'âge du mien, là, qui ont 15 ans, je parle n'importe comment, je ne sais pas si c'est en opposition par les parents ou pas, je ne sais pas, là, je me rendrai compte. Il y a peut-être toute cette radio, je suis en train de penser, qui, je ne parle pas de France Culture, mais toute la radio... Europe numéro 1, périphérique, etc., qui à longueur de journée diffuse des chansons, des gags, des... Vous voyez, qui ne sont pas... Non, qui sont même pas des phrases tellement françaises. Mm-hmm. Certains, parce que je ne veux pas dire tout, je ne veux pas dire ça sur les... Enfin, certaines... Les personnes qui écoutent ça toute la journée, c'est pour là qu'elles apprendront à...
Est-ce que vous regrettez cette dégradation ou est-ce que vous pensez que ça n'a pas d'importance?
Non, moi je regrette.
Et qu'est-ce qu'on peut faire contre cela, à votre avis?
Ben, je pense apprendre, enfin je crois qu'il faut partir des jeunes parce qu'il me semble que les adultes maintenant... Je crois que c'est en classe, c'est dans des maisons de culture, dans des maisons de jeunes que... Et puis en supprimant un peu tous ces illustrés qui sont vraiment des... point de vue français qui sont lamentables. Vous avez des illustrés de jeunes et d'enfants qui lisent à longueur de journée et qui sont vraiment des onomatopées, au point de vue orthographe, c'est lamentable.
Bien. Croyez-vous qu'il faudrait obliger les journalistes ou les speakers de la télévision à parler en bon français?
Ah oui, je crois.
Oui. Les professeurs?
Oui, je crois qu'il faudrait les obliger à...
Oui. Comment est-ce qu'on pourrait faire cela?
Je trouve que quelqu'un qui parle à la radio devant tout le monde, dans toute la France, et qui parle avec des fautes de français, je trouve que...
Oui. Comment est-ce qu'on
Mais
pourrait...
je ne sais pas comment on pourrait obliger les... Oui. Qui refassent des études avec un professeur particulier, enfin des cours de diction, de je sais pas, de présentation de phrases, je sais pas.
Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, l'orthographe est aussi bien enseignée, ou mieux enseignée, ou moins bien enseignée que du temps où vous étiez vous-même à l'école?
Il y a plusieurs méthodes Il y a une méthode d'apprendre à lire qui a été lamentable, qui était, je ne sais pas si c'est déjà en vigueur, mais la méthode globale. On apprenait à un enfant une phrase entière.
Et... Oui.
Moi, les miens n'ont pas appris comme ça. Ils ont appris une méthode phonétique. Alors là, on dit que cette méthode-là était épouvantable au point de vue orthographe pour apprendre aux enfants l'orthographe.
Ah oui.
C'était très mauvais, la méthode globale.
Oui.
Mais quand je vois par rapport aux miens, je pense que ça dépend tellement. Des professeurs eux-mêmes, comment ils l'enseignent, si vous voulez.
Oui, et la correction de la langue est aussi bien enseignée ou moins bien enseignée qu'autrefois, ou mieux enseignée?
Je crois que c'est pareil.
Oui, dans quelle matière...
Je n'ai pas réfléchi à toutes ces questions.
Non.
Alors, ça surprend.
Dans quelle matière est-ce que vous étiez le plus fort à l'école?
En mathématiques.
Oui. Est-ce que vous avez habituellement sur vous quelque chose pour écrire?
Oh oui.
Quoi?
Un bloc avec un stylo bic ou un agenda.
Est-ce que vous possédez un stylo à plume?
Oui.
À la suite de quelles circonstances est-ce que vous avez possédé pour la première fois un stylo à plume?
Un anniversaire, je ne sais pas, ma première communion, ça devait être ça. La chambre à réviser. Alors à 12
première
ans,
communion.
11 ans.
À 11 ans, oui, c'est vos parents qui vous l'ont tout à faire.
Une personne de la famille.
Personne de la famille, oui. Quand est-ce que vous avez écrit quelque chose pour la dernière fois?
Écrit une lettre ou...
N'importe quoi.
Hier, une lettre.
Hier, une lettre. Oui. Est-ce que vous avez besoin d'écrire, généralement?
Moi,
dans votre vie, oui.
Quand je prends des notes à des réunions, puisque je fais des choses comme ça.
Oui. Oui, vous portez habituellement un carnet ou un agenda ou quelque chose du même genre. Oui, vous avez dit un agenda.
Oui.
Oui. Si vous deviez dire quelque chose à une personne habitant à 5 km de chez vous, est-ce que vous préféreriez vous déplacer ou lui écrire une lettre?
Si cette personne était... idiote, je prendrais le téléphone.
Si cette personne était un de vos amis, d'abord.
J'irai le voir. Et si la personne n'est pas là, j'écrirai.
Oui.
Il y a 5 km, j'irai la voir, j'en suis sûre.
Oui. Et si cette personne vous était supérieure, est-ce que vous iriez ou est-ce que vous écririez? Même distance.
Bon, je crois que j'irai.
Vous iriez. Oui. Et pourquoi? Plutôt que d'écrire.
J'aime beaucoup mieux parler aux personnes que d'écrire.
Oui. Est-ce qu'il est important, selon vous, d'avoir une belle écriture?
Oui.
très important ou important ou peu important?
Important.
Important.
Très important.
Oui, pourquoi?
Quand vous recevez une lettre et que vous voyez une écriture qui est jolie et compréhensible surtout, c'est beaucoup plus agréable, on a une meilleure impression sur la personne.
Est-ce qu'il est important selon vous d'avoir de l'orthographe?
Oui.
Et même
oui, c'est très important.
L'échelle,
très,
très
important.
Oui, pourquoi?
Oh, ben, une lettre que vous recevez, une circulaire avec une faute d'orthographe qui vous saute aux yeux, ça donne mauvaise impression. Je ne sais.
Oui. Est-ce que vous seriez favorable à une réforme de l'orthographe?
Dans le sens d'une simplification d'orthographe? Oh. Moi, je pense pas.
Alors, j'ai ici très favorable, favorable, défavorable, très défavorable.
Oh, défavorable simplement, je ne trouve pas très défavorable.
Pourquoi?
Que je oui. pense que... Bon, je pense que la langue française a été, je sais pas, elle a tout un arriéré de tradition, c'est bon, dire ce mot tradition pour une écrire pour une langue, mais enfin, elle a quand même une étymologie qui vient de certains mots latins, enfin c'est une langue qui a, une langue neuve, elle a quand même des assises derrière elle et je trouve que quand on a fait du latin par exemple, c'est tellement facile de reconnaître un sens d'un mot, quand vous dites aux enfants, alors si l'orthographe est toute, ça n'aura plus aucun rapport, à mon avis, avec ses origines.
Eh bien, des questions qui ont rapport maintenant à vous et à votre mari. Hein? Qui de vous ou de votre ami, de votre mari, écrit habituellement aux amis communs?
Ah, oh, c'est moi.
Lui. Et alors, si c'est la famille de votre mari?
Non, c'est moi aussi.
Et votre famille?
C'est moi.
Oui, pourquoi?
J'ai un mari qui ne peut pas tellement écrire. Il écrit à son bureau, alors je trouve que ça suffit. Qu'il ait une femme secrétaire, que c'est très bien.
Qui est-ce qui remplit les papiers administratifs chez vous? D'abord, la feuille d'impôt.
Mon mari.
Oui. Et faille de sécurité sociale et de maladie?
L'un ou l'autre, ça dépend, ça c'est...
Oui. Et d'autres papiers administratifs?
Les choses pour les enfants, vous voyez, oui. Des visites médicales, c'est toujours moi. Oui.
Oui. Qui de vous, de votre mari, possède la meilleure orthographe?
C'est moi.
Et la plus belle écriture?
C'est mon mari.
Oui. Et parle dans le meilleur français?
Je crois que c'est mon mari.
Vous avez dit vous-même pour la plus belle écriture?
Non, c'est mon mari la plus belle écriture, c'est pas
oui.
moi.
Et vous, la meilleure orthographe?
Oui, orthographe. C'est mon mari la meilleure écriture.
Oui. Bon. Et écrit dans le meilleur français?
Non, c'est mon mari. Il écrit très bien.
Oui. Et comment ça?
Comment?
Vous possédez la meilleure orthographe, mais lui, la plus belle écriture.
Mais c'est plus joli à regarder.
Oui.
Je trouve que...
Comment est-ce que vous trouvez que lui parle dans le meilleur français?
En entendant parler des personnes, je trouve que l'on voit si les phrases sont jolies, sont plus jolies ou moins, enfin, je pense.
Mm-hmm. Oui. Combien de lettres est-ce que vous écrivez en moyenne par mois?
Six lettres, moi, peut-être.
Et est-ce que vous conservez les lettres qu'on vous envoie?
Oh, je les conserve jusqu'à temps que j'ai répondu. Comme ça, je les jette.
Oui. Et jamais, vous n'en gardez jamais?
Ah, je garde une lettre des lettres d'enfants, par exemple. Vous voyez, des enfants qui m'ont écrit.
Oui, vos enfants.
Mes enfants, oui. Ou alors des... si des personnes m'envoient des belles cartes postales, oui. Choses de genre, je vous garde mes... pour ça que je les jette, je les garde, ça n'a qu'un temps.
Oui. Combien en possédez-vous à ce moment de lettres conservées?
De mes enfants. Oh, je dois en avoir une dizaine, pas plus.
Quand vous écrivez une lettre, à quoi est-ce que vous faites attention? Quand vous écrivez à vos amis, faites-vous un brouillon?
Non. Il m'arrive de recommencer.
Ah oui? Comment? Comment cela?
Ben je commence une lettre, et puis ça va pas, il y a une phrase qui va pas, et alors je recommence.
Oui. Et faites-vous attention aux fautes d'orthographe?
Oui.
Est-ce que vous vous relisez?
Oui, toujours.
Avec quel écrivez-vous lorsque vous écrivez? Avec quoi écrivez-vous?
Un stylo.
Stylo plume. Oui. Est-ce que vous utilisez un stylo à billes?
Oui, mais pas pour écrire des lettres.
Mm-hmm.
Ainsi, je les prends pour prendre des notes ou écrire des comptes rendus.
Oui. Un crayon?
Crayon de papier, non.
Non. Une machine à écrire?
Non, j'en ai pas.
Non. Quel type de papier est-ce que vous utilisez?
Qu'est-ce que vous appelez des...
Papier à carreaux, papier à ligne?
Ah non, papier blanc. Lisse.
Papier blanc, oui. Couleur?
Blanc, généralement.
Oui. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui utilisent du papier à carreaux?
Je n'aime pas.
Vous n'aimez pas? Pourquoi?
J'ai toujours appris que ça ne se faisait pas d'écrire des lettres sur des papiers à carreaux.
Mm-hmm. Et à ligne?
À ligne, j'avais demandé pour les enfants parce qu'ils ne savent pas écrire droit.
Oui. Quand vous devez écrire un mot d'excuse à l'école de votre enfant, est-ce que vous faites un brouillon?
Quelquefois, oui, ça m'arrive. Oui.
Vous faites attention aux fautes d'orthographe et vous utilisez un
stylo.
Une carte
de visite.
Une carte de visite?
Oui, souvent une carte de visite dans ce cas-là.
Oui, stylo à encre.
Un stylo à encre, oui.
Oui. Si vous deviez écrire à un supérieur, est-ce que vous feriez un brouillon?
Oui, je ferai un brouillon.
Et vous feriez attention aux fautes d'orthographe, stylo à encre.
Oui.
Et papier?
Papier blanc, enfin.
Blanc.
Un beau bloc, je prendrais.
Oui. Vous arrive-t-il quelquefois d'utiliser du papier à carreaux?
Non.
Bon. Alors. Y a-t-il des choses qui vous agacent dans la façon de parler de votre mari?
Non.
Non? Vous arrive-t-il de le reprendre quand il parle?
Non.
Y a-t-il des choses qui agacent votre mari dans la façon dont vous parlez-vous?
Je ne crois pas, moi je n'ai rien dit.
Non. Est-ce qu'il lui arrive de vous reprendre? Alors, qui reprend l'autre le plus souvent? Mari ou femme? C'est pas le cas. Y a-t-il des choses qui vous agacent dans la façon de parler de vos enfants?
Ah oui.
Quoi exactement?
Celui qui a 15 ans, ça vous dirait que c'est un garçon qui est en plein âge ingrat, mais alors... aussi bien le ton que la façon de parler avec des mots d'argot.
Oui. Et est-ce qu'il vous arrive de les reprendre?
Ah oui.
Qui les reprend le plus souvent?
Ah, c'est moi.
C'est vous. Et pour quel genre de choses, oui, vous avez dit cela? Est-ce qu'il y a des mots que vous interdisez de prononcer à vos enfants?
Ben oui, les gros mots, pas très bien.
Est-ce que vous les punissez s'ils les prononcent?
Moi, je les reprends. enfants, donc je ne les punis pas, je ne leur donne pas une punition.
Non.
Je les gronde, je leur dis que je ne veux pas de ces mots-là, mais enfin... Oui.
Est-ce que vos parents faisaient attention à la façon dont vous parliez?
Oh, oui, si, ils ne voulaient pas comprendre, si. Mm-hmm.
Qui est-ce qui vous reprenait le plus souvent? Votre père ou votre mère ou une autre personne?
Je me souviens des deux, je ne m'appelle pas spécialement. Ma maman, peut-être, oui.
Oui, pour quel genre de choses?
Mais surtout une question de, je vous dis, de mots à dire ou ne pas dire.
Oui. Est-ce que votre mère prenait des sanctions quelquefois?
Je ne crois pas. Et au fond, on parlait beaucoup mieux que mes enfants. On ne prononçait pas les mots que maintenant ils prononcent.
Ah oui. Est-ce que votre instituteur faisait attention à la façon dont vous parliez? Ou institutrice?
Oui.
Oui. Pour quel genre de choses surtout, l'institutrice?
Vous savez, il fallait surtout parler, enfin bien parler, c'est une question d'éducation. Peut-être plus que de s'exprimer, à mon avis, enfin, c'est des quelques souvenirs que j'ai.
Mm-hmm. Est-ce qu'elle prenait des sanctions quelquefois?
Bon, oui, je ne sais pas.
Bon, alors, on est arrivé à la fin de ce questionnaire, mais je me demande si vous aimeriez répondre à quelques questions. Encore, surtout sur l'enseignement, parce que je vois que vous vous intéressez beaucoup à ce genre de choses. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, en vous rappelant que je suis anglaise, quelle est la différence, ou quelles sont les différences entre les lycées, les CEG et les CES?
Alors, vous voulez que je vous explique la différence?
Oui.
Les lycées, maintenant, ne commencent qu'en seconde. Avant, les lycées commençaient en 6e avec l'entrée des enfants à 11 ans. Et depuis la réforme de l'enseignement, les lycées ne commencent qu'en seconde. Donc, quand les élèves ont 15 ans. Alors, là, peut-être que je commence par le début, parce que les débuts, c'est les CES et les CEG, je suis en train de penser. L'enfant, quand il sort de l'école primaire, quand il a 10 ans et demi, 11 ans, suivant ses notes, avant, était admis au lycée. Et maintenant, de toute façon, les enfants vont dans les CES ou les CEG. Tous les enfants, même s'ils ont des difficultés scolaires, tous vont en sixième. Et en sixième, alors vous avez les anciens CEG qui ne faisaient pas de latin, alors que les CES faisaient du latin. C'était la différence qu'il y avait. Il y avait un qui était enseignement moderne, l'autre un enseignement classique. Et les élèves maintenant, donc, les CEG sont appelés à disparaître pour devenir tous des CES, où on enseignera le latin, mais à partir peut-être de la 5e, 4e, on ne sait pas, puisque on ne sait toujours pas si les élèves de 6e cette année, qui sont en 6e, l'année prochaine commenceront le latin ou en 5e ou en 4e. Il n'y a encore pas de décret de paru sur l'enseignement du latin. Alors en 6e, quand l'enfant arrive en 6e, vous avez plusieurs 6e, vous avez des 6e de transition pour des élèves qui sont retardés au point de vue... Pour mental, mais enfin, qui ont des difficultés scolaires, qui sont déjà trop âgés pour faire une scolarité normale jusqu'au bac. Alors, ils sont en 6e de transition, et les autres vont dans des 6e, où l'enseignement maintenant est le même. Alors qu'avant, il y avait ceux du latin et ceux qui n'avaient pas le latin. Alors, en 6e, ils font maintenant davantage de langue vivante, d'horaires de langue vivante que l'année dernière, si vous voulez. J'en ai en 6e cette année, lui, il fait de l'allemand en première langue. Et il a 4 heures de langue, alors que l'année dernière, ceux qui étaient en 6e en avaient 3. Alors, ils font beaucoup plus de français, tandis qu'il n'y a pas de latin, ils font énormément de classes de français. Alors, ça, ce sont les CES qui vont jusqu'à 6e, 5e, 4e, 3e. Et alors, à la fin de votre CES, vous passez le BEPC, qui est un diplôme vers 15-16 ans, quoi, 15 ans pratiquement. Et ensuite, alors, les élèves vont en seconde, enfin, il y a le lycée qui commence en seconde, première, terminale. avec des branches très diversifiées. Pour les littéraires, sont toutes les branches A, il y a je ne sais combien d'options, enfin c'est un peu affolant. Les scientifiques qui vont en C ou en D, qui préparent aux carrières médicales et aux carrières de mathématiques. Et puis une section qui est nouvelle depuis quelques années, c'est les sections économiques. Ce sont des bacs B. Et alors il y a également des lycées techniques, alors qui commencent également en seconde, et qui préparent à des baccalauréats de techniciens, alors de techniciens économiques ou de techniciens électro, mécanique, etc. Alors avant, ce n'était pas des baccalauréats que ces élèves-là passaient, ils passaient des brevets. Et maintenant, c'est un niveau de baccalauréat, au point de vue enseignement général, c'est le même. Peut-être d'une, enseigner d'une autre manière, mais enfin, c'est le même. Si bien...
Continuez comme ça, oui. Alors, est-ce que l'enseignement a beaucoup changé depuis que vous étiez à l'école?
Ah oui, beaucoup.
Oui. Comment surtout?
Avec ces différences de, ces différentes orientations qu'il y a à partir de la seconde, qui sont beaucoup plus spécialisées, et puis cet enseignement économique qui n'existait pas enfin, il y a 20 ans, 25
oui.
ans.
Oui. Comment est-ce qu'on fait le choix entre l'école publique et l'école libre?
Je crois que c'est un choix personnel de famille. Oui. Moi étant Orléans, oui, les miens sont allés à l'école libre parce que j'avais toujours été dans cette école-là et je m'y étais beaucoup plu. Je crois que maintenant de plus en plus les familles mettent leurs enfants au lycée parce que c'est gratuit. Évidemment, les écoles privées maintenant ont un nouveau statut qui permet qu'ils ont des contrats avec l'État et ça revient quand même beaucoup moins cher, autrement on n'aurait pas pu continuer à vivre.
Oui, il n'y a pas de raison religieuse.
Ah si, 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 il y a une question religieuse, mais vous voyez, mes enfants me disent, tu nous aurais mis à l'école au lycée, on aurait été certainement beaucoup plus accrochés qu'autrement.
Ah oui.
Non, mais il y a une question sûrement religieuse qui vient jouer, mais qui joue beaucoup moins, si vous voulez, je crois, qu'avant.
Oui.
Parce qu'avant, l'Église faisait un peu une obligation de mettre les enfants dans l'enseignement libre, alors que maintenant, aucunement. Il y a des aumôniers dans les lycées qui sont des aumôniers très valables et très bons. Et...
Qu'est-ce qui vous ferait accepter, vous personnellement, d'envoyer vos enfants dans une école publique?
Moi, je les enverrais beaucoup plus facilement, vous voyez, que je ne les ai renvoyés il y a 20 ans.
Oui.
En me disant qu'ils seraient quand même peut-être davantage dans un milieu enfin, moins croyant. Ils auraient peut-être davantage à donner leurs preuves. Mais je pense que ça dépend des enfants. Mm-hmm. Suivant leur tempérament, comment ils réagissent. Il y en a deux que j'aurais très bien envoyé. Enfin, je me rends compte maintenant, vous voyez, qu'ils auraient été très bien dans un lycée. Et sans compter de, sans parler de problèmes religieux, si vous voulez, dans l'enseignement privé, enfin, tel qu'il est à Orléans que je connais, les élèves sont très très suivis. On les pousse davantage à travailler. Or, dans la famille, il y en a qui sont plus ou moins paresseux, qui ont besoin d'être poussés. Et si on, dans un lycée, si les parents ne sont pas derrière, étant donné qu'il y a quand même beaucoup d'élèves, à mon avis, dans certains cas, ils sont moins suivis que dans un enseignement privé où il y a quand même une échelle plus humaine, ils sont moins nombreux.
Ah oui. Et la dernière question, est-ce que vous êtes favorable à la participation des élèves au conseil d'administration des écoles?
Ben, je pense que les élèves, ben, ça dépend de quelle classe, ils sont trop petits, non. Enfin, dans les lycées, c'est à partir de la seconde. Je pense qu'ils peuvent avoir une place à prendre là.
Oui. De quel point de vue?
Eh bien, qu'ils prennent davantage leur responsabilité dans la vie de l'école.
Ah oui.
Mais alors tout dépend, si vous voulez, comment c'est fait, tout dépend des personnes.
Oui.
Parce que même, je vois, enfin, dans leurs écoles, il y a pas, les élèves n'ont pas de participation dans les conseils d'administration. Mais il y a des délégués de classe, des conseils de classe élus, donc, et des délégués de classe. Ils sont encore absolument pas formés pour ce genre de choses. Les élèves, jusqu'à maintenant, voient plutôt ça dans un sens de revendication, vous voyez. Quand un professeur ne vous plaît pas, quand il fait mal la classe, quand on trouve, enfin. Alors, c'est davantage des récriminations qu'ils font. Je crois que les élèves ne sont pas formés à prendre une part active.
Ils pourraient être formés, vous pensez, à cet âge-là?
À 16 ans, je pense que oui.
Oui. Oui. Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour les former?
Bah, je pense que c'est une question de dialogue avec les parents et avec également les professeurs. Mm-hmm. Parce que eux, enfin, comme ça se passe dans l'école de ma fille, il y a un conseil de... Comment ils appellent ça exactement? Enfin, il y a deux parents délégués par les parents, un professeur titulaire de la classe qui est délégué parmi les professeurs, et puis deux élèves qui sont délégués et qui se réunissent ensemble. Alors, je crois qu'au sein même, c'est peu nombreux, là, quand ils se réunissent pour parler de l'ambiance de la classe ou de ce qui ne marche pas, je crois quand même que professeurs et parents ont un rôle à jouer, là, pour leur expliquer. Il y a un rôle constructif et non pas uniquement de démolir. Mm. C'est ça le gros reproche de, oui. de cet événement du mois de mai, c'est que tout le monde voulait tout démolir sans savoir très bien comment est à la place.
Oui.
On est un peu dans cette...
Alors, nous allons terminer là. Mmh.